Radio Kapi.
Des morts signalées dans la province du Kassai et dans la localité de Samba, secteur de Bapende, près de la ville de Chikapa. 10 corps des creuseurs ont été repêchés jusqu'à ce matin d'une mine artisanale de diamants après un éboulement le mardi. Voilà qui ouvre cette édition du soir. Le séjour du couple royal de la Belgique, les activités menées ce jeudi et comment la ville de Lubumbashi s'apprête à accueillir ce pouvoir de Belgique, c'est à suivre dans ce journal sur Radio Okapi. En fin de cette édition, nous parlons entrepreneuriat agricole, fabrication de savon et transformation des déchets plastiques avec notre invitée, Madame Daphrose Bitungwa, femme entrepreneur du Maniema. En gardant la fréquence de Radio Okapi, vous en saurez davantage. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de cette édition de journal, Billy Yvan Lutumba. Au Kassai, un éboulement dans une mine artisanale occasionne des morts dans la localité de Samba, secteur de Bapende, près de la ville de Chikapa. L'accident a eu lieu mardi. Jusque ce matin, 10 corps des creuseurs artisanaux ont été retrouvés et la 11e personne a été réanimée, a indiqué à Radio Okapi le ministre provincial des Mines. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps, indique la même source. François Kadima.
L'éboulement a eu lieu mardi tard dans la soirée dans une mine de diamants. Les lieux est situé à plus de 30 km du secteur de Bapende, à Chikapa au Kassai, dans le puits souterrain exploité par les creuseurs artisanaux. La cause de cet accident est la surcharge du sol qui est sablonné, indique des sources locales. Confirmant cette information, le ministre provincial de Mines explique que c'est le non-respect des consignes par les exploitants artisanaux des diamants qui ont continué à creuser alors qu'il a été interdit de travailler sur cette mine de diamants. Aaron Kachingu.
Ils n'ont pas tenu au respect des normes. C'est comme ça que le boulement a eu. La situation a évolué. Avant-hier, c'était 6 et ce matin, nous sommes autour de 10 maintenant. Un a été réanimé, il a repris la vie, mais il y a 10 corps qui ont été exhumés.
Ces puits souterrains dans lesquels ces creuseurs exploitent sont communément appelés Majimba. Il y a une année, un autre éboulement s'est produit sur les lieux, occasionnant 2 morts. Une occasion pour le ministre provincial de Mines d'appeler les creuseurs artisanaux au respect des consignes données pour éviter ce genre de situations.
Nous compatissons et nous appelons les artisanaux.
Entre-temps, les autorités locales indiquent que le bilan livré jusque-là reste provisoire et les équipes continuent les recherches sur place pour y trouver d'autres corps. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
En Ituri, plus de 200 personnes déplacées ont été tuées en l'espace de 9 mois par des hommes en armes dans des sites où elles sont hébergées dans le territoire des Djougou. C'est le chef du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR Bounia qui l'a dit ce mercredi. C'était à l'issue d'un atelier de 2 jours qui a réuni des acteurs humanitaires ainsi que des gestionnaires des sites des déplacés. L'objectif de cette formation était de renforcer les mécanismes de sécurité dans ces sites en vue de mieux assurer la coordination des urgences. Une incursion d'hommes armés non identifiés la nuit dernière a fait 7 morts dans le camp des déplacés de Kashuga Kijakati. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Toutes les personnes tuées sont des déplacés. Ce site est situé à environ 15 km au nord de la cité de Kichanga, en chefferie de Bachalimokoto, dans le territoire de Masisi. L'attaque est attribuée au groupe armé qui entoure ce site qui n'est pas sécurisé jusqu'à présent. Sur le plan sécuritaire, une incursion d'hommes armés non identifiés la nuit dernière a fait 7 morts dans le camp des déplacés de Kashuga Kijakati. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Toutes les personnes tuées sont des déplacés. Ce site est situé à environ 15 km au nord de la cité de Kichanga, en chefferie des Bachalimokoto, dans le territoire de Masisi. L'attaque est attribuée au groupe armé qui entoure ce site qui n'est pas sécurisé jusqu'à présent. Denise Lukeso.
C'est vers 20h locales que des bandits armés ont envahi les sites des déplacés de Kashuga Kijagati. Ils auraient fait les porte-à-porte et tiré à bout portant sur les victimes, 4 hommes et 3 femmes et blessé 2 autres personnes, affirment les présidents du camp. Après l'air forfait, ils se sont retirés en toute quiétude sans rien apporter, affirme la même source. Alertés, les militaires sont intervenus mais en retard. C'est une grande désolation ce matin parmi les déplacés de ces sites qui sont en deuil. Les occupants attribuent ces carnage aux groupes armés qui entourent les camps, les Nyatura, Bazungu, mais aussi le NDC Rénové notamment. Le président des camps de Kashuga indique que cet incident est le cinquième du genre. Nzahi Korera déplore que ces sites fassent l'objet d'incursions récurrentes des bandits armés. C'est presque chaque semaine que des incidents sécuritaires impliquant des hommes armés sont rapportés dans ces camps, dit-il. Signalons que les camps de Kashuga existent depuis 2008. Il héberge plus de 1700 ménages venus des trois chefferies de Masisi. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
L'Organisation des défenses des droits humains Impunity Watch appelle le Parlement à adopter rapidement une loi visant à protéger les victimes et témoins des crimes de masse en RDC. C'est ce qu'a déclaré hier mercredi à Kinshasa son chargé de programme Gentil Kasongo à l'issue de la publication du rapport de recherche sur la participation des victimes et survivants des crimes graves au processus informel de justice transitionnelle. Une étude menée en 2021 dans 5 provinces touchées par les atrocités en collaboration avec la faculté des droits de l'Université libre des pays des Grands Lacs ULPGL Goma. Reportage de Fulbert Baloulagué.
Selon le professeur Philippe Tounom Sifou de la faculté des droits à l'ULPGL Goma, les populations à la base expriment les besoins urgents de se réconcilier en commençant par des mécanismes locaux.
La population victime estime qu'il y a urgence à commencer à parler. On ne saura pas construire le pays lorsqu'il y a des crimes qui ont été commis et qui restent impunis. La finalité d'avoir présenté cette recherche au niveau de Kinshasa, c'est pour sensibiliser le gouvernement, d'appuyer les efforts des bâtons intercommunautaires.
À ce stade, effectivement, les bâtons intercommunautaires jouent un rôle important. Stéphane Lupao en est le secrétaire rapporteur au Nord Kivu.
Il y a des victimes qui n'ont pas des moyens pour pouvoir saisir la justice formelle. Elles se tournent vers les barazas qui pratiquement ne leur demandent pas de frais.
Par contre, les victimes attendent réparation mais surtout condamnation des auteurs.
Moi j'habite dans le groupement de Kanyola. Je suis l'une de ceux qui ont été pillés en 2001. Mes attentes est de punir ces gens qui avaient pillé et qui avaient commis des violences aux filles et aux femmes.
Cette initiative est soutenue par le ministre des droits humains, a dit Joseph Mubika, conseiller en justice transitionnelle. Pendant ce temps, Impunity Watch plaide pour la mise en place rapide de la justice transitionnelle en RDC.
Sachez que cette recherche a été menée au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, dans la Tchopo et au Kasaï central. La société civile de Kasumbalesa déplore et dénonce pour sa part la criminalité urbaine qui refait surface après un temps d'accalmie. D'après son président, les bandits armés opèrent en toute impunité, obligeant certaines personnes à aller vivre ailleurs, notamment en Zambie voisine. Il en appelle à l'implication des autorités pour sécuriser cette ville frontalière dont la population semble être abandonnée à son triste sort. On écoute Clément Mitonga, président de la société civile de Kasumbalesa, joint par Jean Ngandou.
La population est victime à tout moment des bandits qui attaquent les paisibles citoyens, malgré la présence des services de sécurité qui semblent être impuissants devant ces malfrats, qui violent, volent, font des extorsions, enlèvent. Il y a quelques jours où la ville de Kasumbalesa a connu une situation très inquiétante, de coups de balle, de 1h du matin à 2h du matin, alors qu'il y a eu quelques jours, une femme a été victime et internée au niveau des centres de santé, là où elle suit les soins médicaux. Une réunion élargie de ce conseil de sécurité a été organisée par le maire de la ville de Kasumbalesa pour analyser la situation d'insécurité à Kasumbalesa. En tant que force vive de Kasumbalesa, nous avions suggéré au maire de la ville que tous les policiers qui ont fait plus de 20 ans doivent être relevés de la ville de Kasumbalesa parce qu'ils se sentent beaucoup plus comme chefs coutumiers. Ils ne répondent pas au mot d'ordre de leur hiérarchie. La population maintenant commence à fuir Kasumbalesa, les autres en Zambie, les autres à Lubumbashi pour trouver de nouveaux lieux résidentiels.
Parlons à présent du séjour du couple royal en RDC. Sachez que ce couple avec le président de la République, le premier ministre belge et le premier ministre congolais ont échangé avec le groupe consultatif des femmes d'exception ce jeudi autour des 4 tables rondes dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Il s'est agi d'écouter les femmes sur l'état des lieux de l'agenda genre et parité, la participation politique des femmes. Celles-ci ont fait entendre leurs aspirations. reportage de Jeff Ngoy.
Directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, professeur Nicole Boitia, explique les thématiques de ce tour de table.
L'autonomisation des femmes, de la jeune fille jusqu'à l'entrepreneuriat. Il y avait la participation politique des femmes dans la scène politique, les violences sexuelles, bien sûr, et domestiques, et il y avait la santé sexuelle et reproductive. Donc il s'agissait ici de parler des enjeux de ces thèmes-là, des défis, des avancées au point de vue interne par rapport à ces thèmes-là, parce qu'on ne peut pas toujours être en position de plaindre, faire comme si des choses que le gouvernement ou le chef d'État n'était pas sensible à ça, bien au contraire.
Karine Kankou, coordonnatrice de la dynamique des femmes candidates.
La loi électorale vient de connaître une réforme et aussi il y a eu un point innovant, c'est la linéa ajoutée à l'article 13 de la loi électorale qui dit que lorsqu'on aligne sur une liste de candidats 50-50, on ne paye pas la caution électorale.
Léonie Kandolo enchaîne.
Nous avons expliqué les aspirations des femmes tout en félicitant les avancées parce que 27% de femmes dans un gouvernement, c'est beaucoup, mais nous sommes encore en dessous des besoins.
Madeleine Kalala évoque les violences basées sur le genre.
Notre groupe a parlé des violences sexuelles, violences conjugales.
Les autorités belges et congolaises ont été très réceptives aux préoccupations des femmes d'après celles-ci.
D'après le programme officiel, Philippe Roy des Belges doit se rendre à Lubumbashi demain vendredi. Le Haut Katanga s'apprête à accueillir le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde à la mi-journée. Certains sites où se rendra le couple royal sont aménagés. C'est notamment l'université de Lubumbashi et l'école belge. Le village Katanga, situé à plus de 90 km de Lubumbashi, où se trouve une forêt communautaire financée par la Belgique, sera aussi visité par le roi des Belges. D'autres détails avec Jean Gandou.
La ville de Lubumbashi qui se prépare à accueillir le roi de Belge revêt de sa plus belle robe. Les travaux d'assainissement se font notamment sur les principales artères qui seront empruntées par le couple royal. Et les immondices sont enlevés ça et là. C'est notamment sur la route de l'aéroport et à l'entrée de la ville. Parmi les sites qui seront visités par le roi Philippe, il y a l'université de Lubumbashi. Là aussi, le plus petit plat sont mis dans les grands pour la réussite de cet événement. C'est ainsi que l'amphithéâtre où le roi s'adressera aux étudiants reçoit les dernières touches. D'après une source proche du rectorat de l'université de Lubumbashi, 6000 étudiants sont attendus à cette manifestation, dont certains viendraient de la province du Lualaba. Après la signature du livre d'or de l'université de Lubumbashi par le roi Philippe dans la salle Monseigneur Tshibangu Tshishikoum, toute la délégation se dirigera dans l'amphithéâtre Kalaba, situé à quelques encablures de là, et 400 professeurs y sont également attendus. Le couple royal belge se rendra le samedi prochain au village Katanga, situé à près de 90 km de Lubumbashi dans le territoire de Kambove, et c'est ce village qui a donné le nom de Katanga à la province. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette mesure préventive au Sud Kivu. Les voyages nocturnes sur les lacs Kivu sont interdits à partir du 8 juin jusqu'à nouvel ordre. Cette décision provient du ministère provincial ayant les transports lacustres dans ses attributions. Il motive cela d'abord par des raisons sécuritaires et ensuite l'absence totale des balises dans les endroits périlleux du lac Kivu. Les armateurs demandent au ministre de revoir cette mesure car cela va préjudicier la population de Bukavu mais aussi celle de Goma. Rachel Kessembangou pour plus de détails.
C'est une mesure préventive pour éviter d'éventuels cas des naufrages nocturnes sur le lac Kivu. Le ministre provincial des transports motive cette décision par le fait qu'il faudrait placer des balises sur le lac. Mathieu Alimassi précise que la mesure peut être levé à tout moment si les armateurs se mettent en règle.
Il faut qu'il y ait des balises parce qu'il y a des endroits très périlés. On s'était convenu avec les armateurs qu'il y aura des cotisations qu'ils vont faire pour permettre à ce que la RVF parvienne à construire les balises pour éviter à ce que les bateaux ne puissent pas se cogner sur les roches. S'ils prouvent que la sécurité des personnes et des biens est garantie, même à l'instant, la mesure peut être levée.
Pour l'association des armateurs du lac Kivu à Salak, cette mesure représente un manque à gagner important pour la population du Nord et du Sud Kivu, car ce sont surtout les navettes nocturnes qui ramènent en quantité des produits de première nécessité pour les villes de Goma et de Bukavu. Prudent Pama, président de Asalak.
Les bâtons qui sortent ici le soir arrivent à Goma le matin et le lendemain, on a une cargaison importante des produits de première nécessité qui font que les gens survivent et trouvent à manger. Comme ils ont décidé qu'ils ne pouvons plus naviguer, ça va terriblement prédicier toute la population et nous pensons qu'on doit revoir cette mesure. Sinon, ça n'ira pas.
Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les élèves étudient à l'extérieur dans certaines écoles de Kambaou. C'est dans le secteur de Bapéré du territoire de Lubero. Selon les responsables de ces écoles et ceux de la société civile de la région qui plaident pour une assistance du gouvernement, ces écoles étaient détruites par une pluie torrentielle qui s'était abattue sur Kambaou au début du mois de mai. Grâce à Mzati pour les détails.
Les écoles primaires publiques Baba Edumba et Mbunya ainsi que l'école secondaire Tata Roga non étatique sont les plus touchées. Elles n'ont plus de murs et toitures emportées par une pluie torrentielle au mois de mai. Selon la nouvelle société civile locale, plus d'un mois après, les élèves étudient sous les arbres ou en plein air et exposés aux intempéries. Suite à cette situation, au moins 35% d'élèves de ces écoles viennent d'abandonner les études, déplore Palou Kunjabia Vincent, directeur de l'EPE Mbunya, qui appelle à une assistance du gouvernement.
Les enfants sont en train de souffrir, ils étudient à l'extérieur. Lorsqu'il est en train de pleuvoir, nous suspendons les cours. Certaines latrines ont été endommagées, les enfants sont en train de faire caca à l'extérieur, aux alentours des écoles. Ils risqueront de se biter à de multiples maladies comme la diarrhée. Vraiment, nous implorons aux autorités qui nous suivent de nous venir en aide.
Contacté à ce sujet, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 interpelle également les autorités compétentes de la région sur cette question. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Lubero dit avoir mené un plaidoyer auprès de sa hiérarchie pour résoudre ses problèmes. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les avocats et les juges tunisiens ont manifesté mercredi devant les tribunaux de la capitale dans le cadre de leur greffe d'une semaine suite à la révocation de 57 juges par le chef de l'État. La révocation des juges par le président Kais Saied est le dernier signe d'une ingérence croissante dans le système judiciaire alors qu'il resserre son emprise sur le pouvoir. Ses détracteurs l'ont accusé d'avoir organisé un coup d'État en juillet 2021 après avoir limogé le gouvernement et pris le pouvoir exécutif. Des dizaines d'avocats et des militants se sont rassemblés sur les marches du palais des justices de Tunis pour dénoncer les actions de Saied. Certains ont crié à bas le coup d'État, d'autres ont scandé autorité judiciaire, pas d'ordre de la police.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, notre invitée est Madame Daphrose Bitungwa, femme entrepreneur du Maniema. Elle évolue dans l'entrepreneuriat agricole, la transformation des déchets plastiques en pavés, mais aussi la saponification. Vu qu'il y a plusieurs initiatives dans la province, cette femme entrepreneur exhorte les autorités à modérer les prix des taxes pour permettre à ces derniers de travailler aisément pour le développement de la province. Madame Daphrose Bitungwa est notre invitée, elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Daphrose Bitungwa, bonjour.
Bonjour.
Femme entrepreneur, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ces jours dans la province?
Bon, dans la province, pendant ces jours, je suis dans l'entrepreneuriat agricole et je fais aussi des petites activités de transformation. J'ai fait la saponification, j'ai fait la transformation de déchets plastiques en pavés. Je suis aussi en train d'encadrer les filles dans la gestion de l'hygiène menstruelle.
D'où est venue l'idée?
Bon, l'idée est venue des autres femmes entrepreneurs de la province. De Maniema que j'ai connue. Il y a la présidente de la commission provinciale des femmes entrepreneurs. Alors nous avons participé à une assemblée générale des femmes entrepreneurs à Kinshasa. J'ai vu les femmes présenter leurs activités. Alors je me suis dit que moi aussi je peux faire quelque chose. Et à partir de là, j'ai commencé. J'ai commencé par faire les champs. Et les champs là, je vendais les produits des champs. Je faisais les maïs, les riz et les maniocs. Mais j'ai trouvé que dans les maïs, les riz et les maniocs, le travail était pénible, mais je ne gagnais pratiquement rien. Surtout parce que les voies d'évacuation n'étaient pas faciles. Et même jusqu'à aujourd'hui, ces voies-là ne sont pas faciles. Alors, je me suis résolue d'entrer dans la culture des piments. C'est là que je suis pour aujourd'hui. Et j'ai vu que la première expérience était porteuse parce que les piments en soi, c'est quelque chose qui ne pèse pas. Et puis, les clients vous suivent au champ pour acheter. Alors là, ça me diminue un peu les coûts de transport. Et je trouve que ça va. À part ça, nous sommes aussi dans un réseau des associations de femmes rurales, Renafer. Et dans ce réseau-là, il y a la formation qui s'est passée en ligne où on nous a formés en saponification parce qu'il y avait un problème de savon pour le lavage des mains par rapport aux mesures de lutte contre la COVID-19. On nous a appris comment faire les savons. Et moi, je me suis vraiment lancée dans l'activité des savons. Ici, je suis en train de produire avec les femmes qui m'entourent les savons antiseptiques à base d'eucalyptus. En dehors des savons antiseptiques, nous sommes aussi en train de produire les savons de lessive de haute qualité. Et ces savons-là, on les fait moyennant l'huile palmiste. Et c'est un savon vraiment qui qui nous aide. Parce qu'avant, on était dans la rue, mais maintenant, là, nous avons notre petit bureau que nous sommes en train de payer les loyers avec les frais là des savons. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent maintenant acheter là où nous fabriquons. Dans cette activité, il y a un Abel qui nous a vu et il est venu vers nous parce que lui aussi faisait une activité de sensibilisation sur l'hygiène et assainissement. Alors, il s'est intéressé à nous et il nous a doté des cadres décortiqueuses à noix palmistes. Et ces décortiqueuses-là nous aident.
Vous avez parlé aussi des pavés.
Oui.
Comment est-ce que vous faites?
Les pavés, nous sommes en train de faire le recyclage de déchets plastiques en pavés. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a les plastiques qui traînent un peu partout dans la ville. Et nous nous sommes dit que nous sommes les femmes, nous devons protéger notre environnement. Nous avons un peu d'argent que nous donnons aux personnes désireuses d'avoir l'argent qui ramassent pour nous ces déchets-là dans la ville partout. Nous avons un groupe de jeunes garçons que nous avons formés et qui travaillent avec nous pour la transformation. Et pour ces pavés-là, nous les vendons. Notre première production, c'était acheté par Enabel. À l'enclos de son bureau, il a placé ces pavés-là. D'autres personnes qui entraient maintenant chez Enabel demandaient qui fabriquait et on les envoyait vers nous. Et là, il y a les personnes maintenant qui font des commandes. Et nous pensons qu'avec l'avenir, comme la ville de Kindo est en pleine construction, nous aurons une grande clientèle. Et aussi, c'est avantageux pour les jeunes parce que ces jeunes-là qui fabriquent avec nous, ce sont les jeunes étudiants. L'argent qu'on leur paye là, les aide pour acheter les habits, pour payer quelques frais au niveau des universités et nous voyons que c'est bénéfique. Et donc, nous trouvons que c'est un emploi déjà que nous avons créé et nous pensons continuer avec cet emploi-là. Et nous sommes à quête des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider à renforcer notre activité.
Vous venez de le dire bien, c'est une bonne initiative. Est-ce que vous avez l'appui du gouvernement?
En tout cas, jusque-là, on n'a pas l'appui du gouvernement.
Nous sommes et vous payez des taxes, tout ça?
Bon, ça c'est encore un problème. Nous allons payer les taxes parce que c'est un devoir, mais qu'on donne quand même une échéance pour que nous puissions nous asseoir et commencer à payer les taxes.
Là, je crois que vous êtes en train d'évoluer sous forme de Asbel. Pourquoi ne pas créer une entreprise? Qu'est-ce qui vous manque ou bien qu'est-ce qui vous freine?
Maintenant, là, nous sommes d'abord comme Asbel parce que nous avons trouvé que lorsque vous voulez évoluer comme entreprise, on vous soumet au paiement de beaucoup de taxes. Alors que nous sommes encore des débutants, on ne saura pas comment payer ces taxes-là. Je vous dis, madame, ici chez nous, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir des entrepreneurs. Mais vu les tracasseries par rapport aux taxes, les personnes se cachent. Ils se cachent soit derrière une association, une Asbel. Et ça, c'est une perte pour le gouvernement. Moi, je pense que si on aidait au moins, on encourageait les entrepreneurs et où on exonérait avec certaines taxes au début, je pense que ça va aider les gens à travailler ouvertement et ça sera pour l'intérêt de notre pays, de notre province.
Madame Dafros Bitungwa, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà qui met un terme à cette édition de journal préparée par Alain Irung et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba était devant ce micro. Nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.